Europe 1, la France bouge.
20h, 21h, Elisabeth Assayag.
Bonsoir à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver. Bienvenue dans la France bouge sur Europe 1 au service de l'entrepreneuriat. La France bouge, ce sont des initiatives positives, des entrepreneurs et des dirigeants qui ont des envies, qui ont des idées et qui foncent. Ce soir, une France bouge pour nos lycéens et futurs étudiants. Ils ont encore quelques heures pour compléter leur dossier, confirmer leurs vœux sur Parcoursup. Alors comment se font les sélections? Où en sommes-nous? Parcoursup est-elle fiable? Pour en parler, le président d'une prestigieuse université de droit. Bonsoir Stéphane Braconnier.
Bonsoir Elisabeth Assayag.
Bienvenue dans la France bouge. Vous êtes le président de l'université Panthéon, Paris Panthéon, Assas. C'est bien ça, on dit comme
exactement.
Ça. Vous êtes l'invité de la France bouge. Autour de la table ce soir, Clara Léger, bonsoir.
Bonsoir Elisabeth.
Alors les filières les plus demandées dans Parcoursup, vous avez une idée?
Oui, 70% des candidats choisissent de faire un cursus de licence. Parmi les licences les plus demandées, il y a la psychologie, l'économie gestion et les STAPS, c'est le sport.
On va en parler ce soir évidemment. Et deux pépites sur Europe 1, quand l'apprentissage devient un jeu grâce à la start-up Powers. Et oui, un vrai jeu vidéo où l'on joue donc en apprenant le français, les maths, l'histoire géo ou encore la poésie. L'autre pépite de ce soir, c'est le Forward College. C'est hors Parcoursup. Et écoutez, chers auditeurs, tendez bien l'oreille. Une école qui répond aux nouveaux besoins du monde du travail qui a considérablement changé. Ça combine l'exigence académique, les compétences humaines. La troisième promotion est en cours et la quatrième en cours de recrutement. Évidemment, pas de France bouge sans un coach. Bonsoir Gilles Attaf.
Bonsoir.
Bienvenue dans la France bouge.
Merci de l'invitation.
Ça vous a inspiré les deux pépites de ce soir?
Je suis très impressionné.
Oui, c'est vrai, pourquoi?
Eh ben parce que peut-être que j'aurais mieux travaillé si j'avais eu la chance de les connaître avant.
Ah oui, ben ça ce sont les écoles, j'ai même presque envie de dire les formations du futur, en tout cas les formations d'aujourd'hui qui permettent de préparer au mieux les étudiants et donc les salariés ou les dirigeants de demain. Allez, la France bouge sur Europe 1, c'est parti, c'est l'émission des audacieux et nous sommes ensemble jusqu'à 21h.
Europe 1, l'invité de la France bouge.
Et ce soir, Parcoursup, dernier jour, encore quelques heures pour finaliser les vœux et confirmer ses choix. On a donc envie d'aller plus loin dans les filières qui existent pour les étudiants ici en France. Et on va démarrer avec l'une des plus grandes universités françaises, Paris Panthéon Assas. C'est la première université juridique française, c'est bien cela, Stéphane Braconnier?
Exactement. Hein ?
Donc vous en êtes le président, 20 000 étudiants?
Exactement.
Près de 600 enseignants?
Près de 600 enseignants, 400 personnels administratifs, plus de 1000 vacataires.
Vous allez pitcher? Vous allez nous dire en une minute ce que c'est? Même si on connaît un petit
l'université
peu déjà.
L'université Paris-Panthéon-Assas.
Ouais. Bah, allez, c'est... top chrono, c'est parti, on vous écoute.
C'est une grande université, comme vous l'avez dit, qui essaie d'allier, je dirais, la tradition du savoir et le talent de l'innovation. Tradition du savoir parce que il y a une tradition d'excellence, de sérieux, de rigueur dans la manière dont les études sont organisées, dans la manière dont nous accueillons les étudiants, dont nous organisons nos enseignements. Et puis, talent de l'innovation parce que c'est une université qui est en permanence tournée vers l'avenir, qui essaie d'anticiper les évolutions à venir, notamment les évolutions technologiques. Lorsqu'on parle de legal tech, lorsqu'on parle d'influence du numérique sur l'information, sur la manière dont l'information est traitée, notamment sur les réseaux sociaux, évidemment, ça interroge beaucoup les disciplines que nous enseignons à l'université Paris-Panthéon-Assas, notamment le droit, bien sûr, qui représente quand même 75% de nos effectifs, mais aussi les sciences de l'information et de la communication. Nous avons un pôle média qui est très ancien à l'université à travers l'Institut français de presse. Et donc, quand je dis tradition du savoir et talent de l'innovation, c'est vraiment ce qui caractérise vraiment notre université, c'est-à-dire essayer d'innover tout en respectant notre ADN en quelque sorte et ce pourquoi nous avons été créés au sein de l'Université de Paris il y a déjà des dizaines et des dizaines d'années.
Et des dizaines d'années. Merci pour votre pitch. Un peu plus d'une minute, mais on a bien compris. C'est pas grave, Stéphane Braconnier, président de l'Université Paris Panthéon Assas. Alors on l'a bien compris, les lycéens ont encore quelques heures pour confirmer leurs vœux sur Parcoursup. Sup, ça veut dire que les choix sont finis, ils sont terminés là au moment où on parle.
Disons que les étudiants, généralement, ou les futurs étudiants plus exactement, ont déjà à peu près identifié les formations qui les intéressent, puisqu'il ne faut pas oublier que la plateforme est ouverte depuis le mois de janvier pour informer les lycéens, et je crois même que dans les mois qui viennent, les années qui viennent, la plateforme va être encore ouverte encore plus tôt hein, pour les lycéens. Donc effectivement, généralement, à ce stade-là, les vœux sont arrêtés, mais comme toujours, il y a les candidatures de dernière minute qui arrivent sur la plateforme. plateforme.
Si on s'arrête un petit peu sur Parcoursup, si vous le voulez bien, Stéphane Braconnier, je rappelle que vous êtes le président de l'Université Paris Panthéon Assas. Ça existe depuis 2018, cette plateforme. Est-ce que ça y est, tout le monde s'est emparé de cette plateforme, tout le monde s'est emparé de Parcoursup. Ça a été très décrié. Chaque année, il y a son lot de déçus, évidemment. Est-ce que vous êtes une formidable vigie pour nous dire si ça prie, si ça fonctionne?
Moi, j'ai une vision assez positive, pour ne pas dire très positive, de la plateforme Parcoursup, qui est à la fois une excellente plateforme d'information pour les lycéens, futurs étudiants. Je crois qu'on trouve sur Parcoursup une somme d'informations qu'on ne trouve nulle part ailleurs sur le nombre d'étudiants, le taux de pression, les débouchés, les qualités requises pour entrer dans telle ou telle formation. Donc, c'est une vraie source d'informations. Et pour les établissements, c'est un moyen de gérer de manière méthodique, rigoureuse, les flux de candidatures que nous recevons tous les ans pour une inscription en licence de droit, en licence de sciences politiques, etc., etc. Si je donne l'exemple de l'Université Paris Panthéon Assas, nous étions vendredi dernier à peu près 70 000 candidatures, déjà.
C'est beaucoup.
C'est beaucoup, c'est 12% de plus que l'année passée.
12%
de plus que l'année passée, ce qui est très important,
très
dans un
important.
contexte de décrue démographique, c'est considérable. Donc pour gérer 70 000 candidatures, il faut évidemment que nous ayons un outil qui soit un outil à la fois assez efficace, mais aussi un outil qui puisse nous permettre de recruter les étudiants qui correspondent précisément au profil et au parcours que nous attendons pour justement que ces étudiants puissent réussir ensuite dans nos filières. Donc c'est la raison pour laquelle mon point de vue sur Parcoursup est relativement
positif. On avait le patron de l'ESSEC il y a quelques semaines, il est comme vous, il dit que c'est très positif. Donc je trouve qu'il y a un décalage entre ce qu'on entend du côté des dirigeants des universités ou des grandes écoles et du côté des étudiants.
Je crois que la raison, elle est relativement simple. C'est sur l'explication des classements qui sortent de Parcoursup, pour lesquels l'explication qui est donnée aux lycéens, à leurs parents également, n'est pas toujours à la hauteur des attentes. Nous, on a 70 000 candidatures. Sur notre filière maîtresse de l'université, c'est-à-dire la licence de droit, nous avons près de 20 000 candidats. Évidemment, un étudiant, un lycéen, va avoir du mal à comprendre pourquoi lui, il est classé 1500e et un camarade
qui a
à peu près le même niveau.
Quelle est l'explication? C'est quoi les critères?
Classé 2500e ou 3000e.
Quels sont les critères?
C'est parce qu'il y a un écart de notes, notamment, qui est très faible entre tous ces étudiants-là.
Ça se joue quoi? 0,01 point?
Centième de point ou à quelques dixièmes de points. Contrairement à ce qu'on pense, Parcoursup, ce n'est pas un algorithme qui choisirait les étudiants de manière totalement aléatoire.
Donc vous nous dites, Stéphane Braconnier, ce sont les notes. Non, on va parler tout de suite, ce sont les notes, le vrai critère.
En particulier les notes, c'est-à-dire que nous paramétrons l'outil Parcoursup, puisque chaque université a la possibilité de paramétrer Parcoursup. Donc nous le paramétrons en priorisant, par exemple, les notes au bac de français, où on peut affecter un coefficient plus fort aux notes du bac de français. On peut affecter un coefficient plus fort aux notes d'histoire-géographie.
Et ça, c'est le libre choix de l'établissement. Donc vous, par exemple, vous allez affecter un coefficient plus fort dans quoi?
Pour le droit en particulier, parce que ça peut varier évidemment selon les disciplines, mais pour le droit, ça va être le bac de français, l'histoire-géographie, les sciences économiques et sociales, les mathématiques. On va mettre une prime, si je puis dire.
Mais ça, ils le savent, les étudiants?
Normalement, ils le savent, bien sûr, parce qu'il y a une transparence sur les critères de choix. On va mettre une prime aux étudiants qui ont fait du latin ou du grec, par exemple. En droit, on va évidemment mettre une prime aux étudiants qui ont suivi l'option droit et grands enjeux du monde contemporain.
Ceux qui prennent latin en cinquième ont déjà une...
Cinquième, à partir de la cinquième, s'ils ont continué le latin,
bah non, mais
terminale.
Bah oui, mais
c'est pas une prime
choix
à ceux qui ont fait du latin en cinquième qui ont arrêté en quatrième.
Donc démarré en cinquième, ce que j'essaie de comprendre, c'est que comme quoi tous les choix, même quand ils démarrent en cinquième ou en sixième, peuvent compter dans Parcoursup.
Évidemment, ça peut avoir une incidence sur ensuite le classement. Et donc tous ces paramétrages-là va donner ensuite un classement de tous les candidats, qui va tenir compte également de l'origine géographique, puisqu'il y a une sectorisation sur Parcoursup. Donc, par exemple, à Paris, on a un recrutement sur les trois académies de l'Île-de-France, c'est-à-dire Versailles, Créteil et Université de Paris. Mais nous avons la possibilité de recruter 2 à 3% de nos étudiants en dehors de ce secteur-là. En revanche, nous sommes obligés de recruter 15% de boursiers. Donc, tout ça va être mis dans la machine Parcoursup et ça va générer, si je puis dire, un classement, et ensuite ce classement sera examiné, cette fois humainement, par une commission d'examen des vœux qui...
Là, c'est par des êtres humains.
Alors, par des êtres humains, mais avec 70 000 candidatures, évidemment, nous avons quand même une manière de fonctionner qui ne nous permet pas, compte tenu du temps que nous avons également, d'examiner tous les dossiers en détail. En revanche, par sondage, pour vérification des cohérences de classement, on va examiner notamment les dossiers qui sont dans les premières places pour vérifier qu'il y a bien une cohérence entre ce que nous souhaitons et les dossiers des candidats. Et là, nous examinons les projets de formation motivés, l'engagement des étudiants, l'affiche à venir, etc.
Donc, si c'est les notes, quand on entend de plus en plus des familles qui disent « moi, je préfère mettre mon enfant dans un établissement moins prestigieux pour la première et la terminale pour avoir une bonne note pour Parcoursup », est-ce que ça, vous l'approuvez, Stéphane Braconnier ?
Non, je ne l'approuve pas. Et d'ailleurs, dans Parcoursup, nous avons la possibilité, de manière positive, j'insiste bien là-dessus, de tenir compte du lycée d'origine et de tenir compte du lycée d'origine en intégrant dans notre classement, par exemple, le nombre de mentions très bien ou le pourcentage de réussite au bac du lycée. Donc il s'agit
donc,
de le faire de manière positive.
Donc il y a forcément un algorithme alors, pour tout ça.
C'est pas vraiment un algorithme, puisque l'algorithme laisse entendre, c'est pour ça que j'aime pas beaucoup ce terme-là,
non, mais c'est
l'algorithme
pas...
laisse entendre que le choix est un peu aléatoire. Le choix n'est pas
oui,
aléatoire.
Oui, mais là, depuis le début, vous dites que vous prenez en compte le coefficient pour si, la mention, l'établissement, l'origine géographique, donc forcément,
mais
tout
Elisabeth
ça, ça va...
Mais c'est ce qui rend justement notre choix beaucoup plus rationnel, parce que nous avons des paramètres qui sont parfaitement transparents et parfaitement clairs, qui sont entrés évidemment dans un outil qui est un outil numérique, qui va permettre justement de mouliner tout ça et de nous sortir le classement. Et ensuite, in fine, il y aura un choix qui
un
sera
choix
fait par une commission
par une
d'examen.
Commission. Qui sont les professeurs qui font partie des commissions
alors, selon les, c'est des professeurs
pour Paris
Panthéon-Assas de, c'est les professeurs de l'université, hein, qui sont selon leur discipline, soit dans la commission droit, soit dans la commission sciences économiques, soit dans la commission information, communication, sciences politiques, etc. Et donc, sont des professeurs de l'université qui connaissent parfaitement les exigences attendues d'un étudiant en première année dans telle ou telle filière et qui donc vont pouvoir apprécier avec un œil avisé, si je puis dire, les dossiers des candidats et vérifier qu'il y a une adéquation, la meilleure adéquation possible, si je puis dire, entre le profil du candidat, sa motivation et la filière
donc,
qu'il a choisie.
Donc, profil du candidat, c'est les notes, la motivation, c'est la lettre.
La motivation, c'est la lettre. Alors, vous savez que la lettre sur Parcoursup, c'est ce qu'on appelle un projet de formation motivé qui tient en quelques lignes.
C'est bon, compliqué.
Ce
ça,
projet, je dois dire que je n'y attends pas non plus, on n'y attachons pas une importance considérable, compte tenu du fait que c'est très court, assez formaté, que dans la plupart des cas, c'est rédigé soit par les parents, soit par de l'intelligence artificielle, soit par les deux d'ailleurs. Et en réalité, donc, il n'y a pas une densité de contenu très importante. En revanche, ce qui est important, c'est souvent l'engagement de l'étudiant, sa fiche à venir. Par exemple, la fiche à venir qui est remplie par les professeurs de terminale.
L'engagement, ça signifie quoi ?
C'est du engagement associatif, s'il a fait un service civique, s'il est impliqué dans une association sportive, le sport, etc., etc. Ça, on peut en tenir compte. Évidemment, c'est des éléments qui sont positif à l'appui.
Et ça, c'est indiqué dans chaque dossier de Parcoursup.
Dans chaque dossier de Parcoursup.
Donc, c'est très complet quand on vous entend parler, Stéphane Braconnier. Je rappelle que vous êtes le président de l'Université Paris Panthéon-Assas. C'est très complet.
Et c'est une réalité. Je crois que c'est la raison pour laquelle nous avons, et j'imagine que beaucoup des responsables de l'enseignement supérieur, vous parliez du directeur général de l'ESSEC tout à l'heure, mais beaucoup de responsables de l'enseignement supérieur ont vraiment une vision très positive.
Très positive.
C'est la même chose pour les proviseurs des lycées, des classes préparatoires, par exemple, hein, qui trouvent sur Parcoursup également un outil extrêmement précis, extrêmement rigoureux, qui permet d'opérer une sélection, ou du moins de recruter les étudiants dans les meilleures conditions possibles, et d'essayer de limiter au maximum la part d'aléas. Et c'est sans doute aujourd'hui la part du chemin qui reste à parcourir pour donner pleine satisfaction et pour que Parcoursup entre vraiment, on dirait, soit consolidé, la place de Parcoursup soit consolidée dans le paysage, c'est cette part d'aléa sur le résultat. C'est-à-dire peut-être savoir mieux expliquer, peut-être qu'on ne savons pas suffisamment le faire, aux parents, aux lycéens, pourquoi ils se retrouvent à ce classement plutôt qu'à un autre classement,
et
alors
pas
même
le
considérer qu'ils ont l'impression
avec,
qu'ils ont le même.
Avec
moi,
cette
j'ai eu
défiance.
Beaucoup de lettres, évidemment, au mois de juin, juillet, là, de parents ou d'élèves même qui m'écrivent en me disant « mais je ne comprends pas, je suis encore 3500e ou 4000e sur la licence de droit, alors que mon copain de classe, lui, était 1000e et a été recruté sur la liste d'attente. »
Et alors vous justifiez ça comment ?
Ça se joue à quelques points sur les notes, parce qu'il y en a un qui a fait du latin, l'autre qui n'a pas fait.
Ça, parce que l'engagement est important.
L'option droit et grands enjeux du monde contemporain, qui est une nouvelle option de terminale qui a été créée il y a 4 ans maintenant, ça c'est une option qui est importante, dont on va tenir compte évidemment dans la filière droit. Donc là, il y aura un bonus à celui qui l'a suivi, mais un petit bonus dans un classement qui comporte 15 000 ou 16 000 étudiants, évidemment, parfois, ça fait une différence de place très importante.
Est-ce que les années Covid ont changé quelque chose dans le souhait des étudiants, Stéphane Braconnier ?
Non, ça, alors ça,
on n'a pas vu une évolution.
Non, on n'a pas vu d'évolution. Ce que l'on a vu, en revanche, et ça, c'est à l'échelle de l'enseignement supérieur, c'est une certaine forme de désaffection pour les classes préparatoires, hein, du moins une interrogation un peu plus forte des familles et des élèves à l'égard des classes préparatoires, notamment des classes préparatoires économiques.
Ouais.
Mais en revanche, il n'y a pas eu de changement majeur de comportement dans les choix des étudiants, et notamment dans les choix des étudiants en faveur des universités.
Bon, et si on n'a aucun vœu, l'étudiant se retrouve sans vœu, vous leur répondez quoi, ces étudiants dans la rue ?
L'étudiant qui n'a aucun vœu, alors attends, il y a une différence entre l'étudiant qui n'a formulé aucun vœu, donc
non,
qui
pardon,
n'est pas
allé... Non, qui n'a aucune
ce
réponse.
Qui arrive aussi, ce qui arrive aussi. Hein,
oui, mais oui, ça arrive. Alors, vous le... qu'est-ce
même
que vous
si
répondez ?
Même si j'ai du mal à croire aujourd'hui que sur Parcoursup, un élève de terminale n'arrive pas à trouver une formation qui correspond à minima à ses attentes, il y a quand même aujourd'hui un panorama et un spectre très large. Hein, et le ministère de l'Enseignement supérieur vient d'intégrer sur Parcoursup là, cette année, hein, des formations privées qui sont totalement privées, hein, qui ne sont pas des écoles de commerce ESPIG ou des écoles de commerce ESPIG ou des écoles d'ingénieurs. C'est vraiment des formations totalement privées avec un certain nombre de critères, évidemment. Donc, le spectre aujourd'hui sur Parcoursup, il est très large et il couvre, je crois, la quasi-totalité des formations offertes dans l'enseignement supérieur. Donc, un élève de terminale qui ne formule aucun choix sur Parcoursup,
non.
Je crois. Mais en revanche, un élève qui formule des choix sur
et
Parcoursup
qui n'a pas de réponse
et qui n'a rien
positive.
À la fin, positif, ça peut arriver, même si là encore, il y a des dispositifs
a des
qui
dispositifs.
Sont mis en place pour les rattraper et que normalement, il a été expliqué à ces étudiants-là qu'il faut qu'ils choisissent au moins une formation non sélective pour être quasiment sûr d'être admis dans une formation de l'enseignement supérieur.
Gilles Attaf, je croyais que vous vouliez ajouter quelque chose.
Non, je me posais une question.
Vous écoutiez attentivement.
Oui, tout à fait.
Stéphane Braconnier.
Vous parliez de l'Académie Paris-Créteil-Versailles, donc en fait votre principal vivier. Et je voulais savoir si vous recrutiez de la même façon des étudiants de Paris comme de Créteil ou comme de Versailles. Est-ce qu'il y a géographiquement... un choix, est-ce qu'il y a un bonus ?
Alors,
il y a des quotas quand même.
Il n'y a pas de bonus géographique, ça, il n'y a pas de bonus géographique à l'échelle de notre secteur. Ça, en revanche, on n'a pas le droit de le faire, et heureusement d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire qu'à l'échelle de notre secteur, nous n'avons pas le droit de mettre un bonus sur des élèves qui viendraient de Paris plutôt que des élèves qui viendraient de l'Académie de Versailles. Ça, ce n'est pas possible parce qu'ils sont tous dans le même secteur. En revanche, là où la sélection, entre guillemets, se fait, c'est par les élèves eux-mêmes. C'est-à-dire que les élèves de Versailles vont avoir beaucoup moins tendance à être candidats sur des universités Paris intramuros. Et ça, on l'observe sur l'origine géographique de nos candidats. On a évidemment des très gros bataillons de candidats, près de 80% qui viennent de Paris, et beaucoup moins les 20% restants qui viennent des autres académies. Donc je dirais que la stratification géographique, elle se fait d'elle-même à travers les candidats eux-mêmes, mais certainement pas à travers les universités.
Bon.
J'ajoute également, pour être parfaitement complet sur le sujet, que cette sectorisation dont j'ai parlé, c'est-à-dire l'obligation qui nous est faite de recruter dans notre secteur géographique, avec une petite marge de 2 à 3% de possibilité de recruter hors secteur, ça vaut pour les filières non sélectives. Et il y a ensuite les filières qui sont vraiment sélectives, les doubles diplômes par exemple, elles sont à recrutement national. Et pour ces filières-là, qui sont les filières d'excellence type collège de droit par exemple, pour ces filières-là, nous recrutons nationalement, et alors là, nous sommes totalement déliés par les obligations.
Vous êtes combien à travailler d'êtres humains sur Parcoursup ? Ça me paraît tellement compliqué.
Nous avons une équipe administrative dédiée, mais je dirais qu'il y a une équipe, on va dire, un peu commando, hein, avec une personne qui ne s'occupe que de ça, plus deux ou trois personnels administratifs, qui gèrent en plus la plateforme Parcoursup et la deuxième plateforme nationale, qui est la plateforme Mon Master, pour la sélection en première année de master.
En master aussi, vous avez plus de demandes que l'an dernier.
Alors là, c'est une augmentation qui est exponentielle, puisqu'on est à plus 22% par rapport à l'année dernière.
Incroyable.
Et on a 52 000 candidats, c'est-à-dire que je vois arriver avec une grande crainte le moment où nous aurons autant de candidatures en master que sur Parcoursup, alors même que nous n'avons que 1500 places en master. Hein,
mais vous l'expliquez comment cet engouement pour les masters, vous l'expliquez comment ?
Alors, sur l'université Paris-Panthéon-Assas, je crois que c'est l'attractivité de l'université qui joue beaucoup
sur les masters. C'est le prestige de l'université et ses résultats.
Ça joue encore plus au niveau des masters que sur la première année, indiscutablement. Et puis, je crois que la plateforme nationale, quand même, il n'y a pas que des motifs, on va dire, positif, la plateforme nationale qui fait qu'aujourd'hui un étudiant dépose un seul dossier de candidature en master et peut cocher jusqu'à 15 ou 25 choix si, par le jeu des choix multiples, simplement en cochant des cases, évidemment ça c'est beaucoup plus facile que d'aller déposer 15 dossiers dans 15 universités différentes. Donc la plateforme nationale qui a été ouverte il y a 2 ans, très clairement, a favorisé la multiplication des candidatures et donc l'augmentation importante du nombre des candidats.
Europe 1, la France bouge.
Elisabeth Assayag.
Et si vous nous rejoignez, vous êtes bien sur Europe 1, vous écoutez La France bouge, l'émission des entrepreneurs, des dirigeants, des belles entreprises françaises. Et ce soir, dernière heure avant de confirmer son choix sur Parcoursup. D'ailleurs, je me tourne vers vous, Clara Léger. Les prochaines étapes de Parcoursup, quelles sont-elles?
Donc aujourd'hui, dernier jour pour confirmer ses vœux, finaliser son dossier. À partir du 30 mai, les élèves commenceront à recevoir les réponses de la part des organismes de formation. Il y aura quand même une petite pause de quelques jours pendant le bac pour que le lycée puissent se concentrer. À partir du 11 juin et jusqu'au 12 septembre, c'est là qu'intervient la phase d'admission complémentaire avec 10 nouveaux vœux possibles pour s'inscrire dans des formations qui ont encore de la place. Le 8 juillet, les résultats du bac et donc les lycéens auront ensuite quelques jours jusqu'au 12 juillet pour clôturer les inscriptions dans un organisme de formation supérieure en donnant les épreuves du bac qu'ils ont obtenues.
C'est très bien organisé, hein. Il faut que tout soit noté sur l'agenda parce qu'il y a tellement de dates à retenir. On en parle avec Stéphane Braconnier, président de l'Université Paris Panthéon-Assas. Vous nous l'avez dit depuis le début de l'émission, 12% de candidatures hein, en plus par rapport à l'an dernier. Ce qui prouve qu'on s'empare de plus en plus de cette plateforme. Parcoursup, comment bien s'orienter? Elle peut parfois être plus cruelle pour des adolescents plus fragiles scolairement ou alors l'entourage n'est pas forcément armé pour les conseiller. Pour chaque personne, c'est un chemin, l'orientation. Écoutez ce qu'est les propos des Français recueillis par Antoine Fenech au micro Europe 1 de La France bouge.
La chance d'être bien suivi par mes parents, de me renseigner au CIO dès la seconde, d'être dans un lycée qui mettait vraiment des outils pour l'orientation, pour se renseigner sur toutes les voies qui existaient, les classes prépa, les écoles de commerce et d'ingénieurs. Moi j'ai fait notamment beaucoup de salons étudiants et c'est vrai que dans ces événements c'est beaucoup de marketing, de publicité assez mensongère, hein, faut bien le dire.
J'avais extrêmement peur en fait, arriver en première terminale de ce que j'allais faire. J'ai fait du droit parce que c'était général. Je pense que ce qui compte malheureusement aujourd'hui quand on est jeune, c'est plus les personnes autour, les parents, les amis de parents, tous les adultes qu'on peut rencontrer. Moi, mon orientation, je l'ai trouvée grâce à des stages, grâce à mon père également qui lui faisait du droit, donc c'était plus simple.
J'ai eu plein de rendez-vous avec des conseillères d'orientation. J'ai voulu passer plusieurs concours justement pour intégrer des écoles d'ingénieurs. Et en fait, finalement, en faisant des journées d'essai que certaines avaient proposées, je me suis rendu compte que c'était pas ce que je voulais faire, malgré les conseils du conseil d'orientation.
Mon orientation scolaire a été plutôt complexe, avec assez peu d'aide de la part des éducateurs et des orientateurs scolaires. Et mes choix d'orientation se sont principalement faits grâce aux rencontres que je faisais sur les salons étudiants.
On l'entend, c'est compliqué hein, autour de la table de la France bouge. Ça a été compliqué pour votre orientation, Stéphane Braconnier?
Non, mais c'était une autre époque, même si ça ne remonte pas à si
non,
loin
mais,
que ça.
Mais quand même.
Non, mais je ne vous le dirai pas. Mais en tout cas, c'était une autre époque parce que d'abord, il y avait deux éléments qui changeaient beaucoup. D'abord, il y avait une logique géographique qui était beaucoup plus forte qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que les lycéens allaient généralement étudier dans l'université de proximité ou dans les écoles de proximité. Et donc, ne venait pas à l'idée d'un lycéen, d'un lycée de telle région, d'envisager étudier beaucoup plus loin.
Les horizons sont plus larges.
Et ça, c'est très lié à Parcoursup. Parce que Parcoursup, on l'oublie souvent, et ça, c'est un élément très positif de la plateforme, a ouvert totalement les horizons aux lycéens.
Ça se cantonne pas à notre quartier, notre région.
Non, mais ils entrent sur une plateforme, c'est un peu la caverne d'Ali Baba de l'enseignement supérieur. C'est-à-dire qu'ils découvrent toute une série de formations, toute une série de domaines, des écoles, des universités, des filières courtes, des filières longues. Et donc, ils ont aujourd'hui, oui, l'horizon beaucoup plus ouvert qu'il y a quelques années.
Clara Léger,
est-ce que justement cette multitude de choix, c'est pas aussi un frein pour l'étudiant? C'est hyper difficile quand on a 17 ou 18 ans de savoir ce qu'on veut faire comme études et ce qui va régir notre vie professionnelle toute notre vie.
D'où la nécessité d'avoir une orientation, de repenser l'orientation des lycéens. J'entendais votre auditeur dans le micro-trottoir que vous avez réalisé qui parlait du CIO. Bon voilà, est-ce qu'aujourd'hui les CIO tels qu'ils sont conçus...
Ils ont toujours les fiches métiers.
Les fiches ONICEP, toutes ces choses-là. Est-ce que ça correspond vraiment à ce qu'attendent les lycéens? Je n'en suis pas persuadé. Les salons étudiants aujourd'hui, c'est très important.
Il y en a un qui le disait qu'il était dans un salon.
Dans les salons étudiants, en région en particulier, 80% à 90% des filières qui sont présentes sur ces salons-là, c'est des filières privées, strictement privées, qui ne sont même pas les écoles de commerce que tout le monde connaît ou les écoles d'ingénieurs labellisées par l'État. Donc on a, et ça c'est un phénomène aussi qui doit être pris en compte, on aura sans doute l'occasion d'en parler, c'est un phénomène important. Et donc comme vous le dites, c'est de plus en plus compliqué pour un lycéen face à l'afflux des filières, de savoir
face au choix, c'est compliqué
privée,
de savoir
publique.
où on a envie d'aller.
Et donc,
bah justement,
il faut repenser le conseil et l'orientation.
Et certains font le choix de ne pas s'inscrire sur la plateforme, d'aller vers d'autres formations. L'école dont on va parler dans un instant en fait partie.
Europe 1, la France bouge.
La pépite.
Avec vous, Boris Valbaum, ça fait plus de 20 ans que vous êtes dans le domaine de l'éducation.
Oui, tout à fait. J'ai fait 10 années d'abord comme haut fonctionnaire où je m'intéressais à ces questions, mais en étant un petit peu de loin à la Cour des comptes. Et puis après, j'ai été dans le conseil où j'ai pas mal travaillé sur l'éducation. Et après, je m'y suis vraiment consacré à 100% en étant à la fois consultant et entrepreneur social dans le domaine de l'EGS.
Vous avez fondé l'association Article 1, la première association européenne dans le domaine de l'égalité des chances. Vous aidez des jeunes issus de milieux défavorisés à réussir leurs études, à trouver un emploi. Et combien en moyenne par an vous en aidez?
150 000 jeunes.
Donc à vous les accompagnez dans leur orientation.
Notamment
à travers,
plus de 100 000 effectivement au sein de l'orientation.
À travers Article 1. Si vous êtes sur Europe 1 ce soir, Boris Valbaum, c'est pour Forward College. Première promotion, c'était en septembre 2021.
Oui, tout à fait. Et recruter des étudiants sur une école qui n'existe pas en plein Covid en leur disant qu'ils vont faire leur première année à Lisbonne, leur deuxième à Paris et leur troisième à Berlin, c'était un sacré challenge.
C'était un sacré challenge. Alors justement, avant d'entrer dans le détail, Forward College, c'est quoi? Vous aussi, c'est le moment du pitch, vous êtes prêts?
Oui, je
suis prêt. Top chrono, c'est à vous.
Donc Forward College, c'est une grande école qui est donc à vocation européenne, comme je le disais, et qui développe des étudiants sur l'ensemble des formes de l'intelligence humaine. On a tendance à se focaliser, notamment en France, sur l'intelligence des connaissances et des raisonnements. Alors pour ça, effectivement, on a fait un partenariat avec de très grandes universités britanniques, notamment la London School of Economics, dans les domaines de l'économie, de la psychologie, des sciences politiques ou encore des data science. Mais à Forward College, on va bien au-delà, puisqu'on développe également l'intelligence émotionnelle, qui est très important, pour arriver à décrypter ses émotions et pouvoir les gérer. On développe également l'intelligence sociale, c'est-à-dire réussir à connecter et à collaborer avec d'autres. Les étudiants de Forward College passent un tiers de leur temps à travailler en équipe. Et puis enfin, on développe l'intelligence pratique, l'intelligence de l'entrepreneur qui sait décider et agir dans l'incertitude. Voilà, donc au-delà d'être efficace pour s'adapter au job de demain, car ces intelligences autres que l'intelligence cognitive sont extrêmement importantes, c'est aussi une façon pour les étudiants de devenir plus enthousiastes, d'avoir leur vocation plus à cœur et d'avoir une influence plus positive sur le monde.
Si, merci pour votre pitch, merci de vous être prêté à l'exercice, Boris Valbaum, fondateur de Forward College. Troisième promotion, la quatrième est en cours de recrutement. Pourquoi vous avez eu cette idée, puisque vous étiez bien là, avec Article 1, c'était déjà dans cette mouvance-là. Pourquoi être allé encore plus loin?
En fait, je crois que j'ai un rêve d'enfance qui consiste à créer une école. Et quand j'étais petit, à 6-7 ans, je dessinais, je me rappelle, des plans d'école comme un architecte avec des salles qui étaient en forme ronde. Et donc, je crois que j'ai ça assez ancré en moi. Et un matin, en 2018, je me suis réveillé, c'était pendant les vacances d'été, et je me suis dit, mais en fait, j'ai toujours rêvé de créer une école. Si je ne le fais pas maintenant, je ne le ferai jamais. Et voilà, donc j'avais 46 ans à l'époque, c'était effectivement, je pense, le bon moment pour le faire.
Le bon moment pour le faire, et ce n'est pas une école comme les autres, si je comprends bien. C'est une école où on ne va plus, en tant qu'étudiant, prendre des notes de manière académique, écouter le professeur, rester, entre guillemets, un peu passif, et rentrer à la maison. Non, l'élève, l'étudiant, est acteur de sa formation.
Exactement. D'abord, il ne rentre pas à la maison, puisque, comme je vous l'ai dit, il est itinérant, et donc il vit ensemble.
Trois ans, trois endroits différents.
Exactement.
J'aime bien.
Donc ça, c'est extraordinaire parce que vous retrouvez à partager votre cuisine avec une dizaine d'autres étudiants de d'autres nationalités. Et c'est là que vous avez développé aussi votre intelligence sociale. Donc effectivement, à Forward College, on pratique ce qu'on appelle la pédagogie inversée ou pédagogie active. C'est-à-dire que c'est vous qui, d'abord individuellement, puis après en petite équipe, découvrez votre cours et décryptez votre cours. Parce que dans la vie réelle, il n'y a pas de prof.
C'est vrai.
Quand on sort, il n'y a pas de prof. Et malgré tout, il faut continuer à apprendre. Et c'est très important.
Et donc, elle consiste en quoi? Ça veut dire qu'on a quand même des professeurs qui nous enseignent des matières
Tout à fait.
Mais comment elle se traduit, cette pédagogie active?
Donc la pédagogie inversée commence par l'étudiant, mais elle se termine effectivement avec l'enseignant, puisqu'après ils vont en cours, donc ils ont un certain nombre de choses à préparer. Ça peut être par exemple une simulation, si vous êtes en sciences politiques, ça peut être la simulation d'une négociation internationale. Et donc vous devez à la fois bien comprendre les caractéristiques de cette situation et négocier entre vous. Donc là, le prof va être là pour réguler, ou alors ça peut être un débat. Il va y avoir les marxistes d'un côté, les libéraux de l'autre. Et donc c'est le moment où vous allez pouvoir soit demander des points d'éclaircissement sur les choses qui sont un peu plus compliquées, soit surtout être en position d'acteur pour vous confronter aux autres dans ce qui serait d'ailleurs dans le monde professionnel une réunion.
C'est formidable. Vous en pensez quoi? Quel regard portez-vous, Stéphane Braconnier, sur Forward College, président de l'université Paris-Panthéon Assas ce soir?
Ah, moi, je trouve ça formidable. Je trouve ça d'autant plus formidable. Je suis très favorable. Je suis partie de ces dirigeants de l'enseignement supérieur français qui sont très favorables à l'élargissement de l'offre pour les lycéens, pour les jeunes. Et donc, toute contribution à la diversification de notre offre d'enseignement supérieur,
je crois, c'est le cas,
est bienvenue. Et là, on a une offre tout à fait originale qui répond à l'évidence à des besoins et à des profils particuliers et qui vient compléter très utilement
notre offre. Et au métier de demain, parce que c'est aux étudiants de faire l'effort d'apprendre. Dans la vraie vie, il faut apprendre, il faut poser des questions, il faut fouiller, il faut chercher ses propres réponses. Donc c'est dans cette démarche-là.
Oui. Alors après, l'idée qu'il ne faut pas laisser prospérer, c'est qu'il n'y a que dans ces écoles d'un nouveau type, je dirais, qu'on fait ça, puisque dans nos universités aussi, on fait beaucoup de
pédagogie. Ah non, on n'est pas là pour s'opposer les uns les autres, on est là pour montrer aussi, tout ce qui existe.
Mais c'est un peu aussi la difficulté que nous avons dans l'enseignement supérieur français à essayer justement d'éviter d'opposer d'entité de l'enseignement à telle autre ou telle méthode à telle autre. Je crois que notre enseignement supérieur français, sa richesse, elle est liée justement au fait que nous avons toujours su conjuguer un enseignement public fort, diversifié, très arrimé sur la recherche fondamentale, la recherche scientifique, et un enseignement privé qui est plus agile, qui a souvent fait preuve d'originalité. Aujourd'hui, il y a moins d'opposition entre les deux et je crois qu'on est plutôt dans une logique de complémentarité.
C'est hors Parcoursup, Boris Welbaum, Forward College. Pourquoi ?
Parce qu'on est une formation européenne, donc on recrute dans toute l'Europe. Donc, pour l'instant, on est hors Parcoursup. Il n'est pas du tout exclu que d'ici un an ou deux, on devienne aussi une formation dans le cadre de Parcoursup. Mais c'est à la fois une décision de l'État, à la fois une décision de notre côté. Donc, ça se discute.
On est donc dans une pédagogie quasiment sur mesure, j'ai l'impression. Oui. Combien d'élèves aujourd'hui ?
Donc, nous avons 180 étudiants.
Oui.
Et nous avons à peu près 23 enseignants-chercheurs. Donc voilà, il y a un ratio entre le nombre d'enseignants-chercheurs et le nombre d'étudiants qui est très élevé, beaucoup plus élevé malheureusement des universités qui ont...
Je crois que même chaque semaine, chaque étudiant voit un professeur seul pendant une vingtaine de minutes.
Et c'est très important parce que quand on fait un examen ou une épreuve, on reçoit une note. Et très souvent, les étudiants se focalisent sur cette note. L'important, ce n'est pas la note, c'est de savoir sur les quelques critères clés qui font la qualité d'une bonne copie, comprendre là où on est bon et là où on est moins bon. Et en général, la note, elle est liée à la compétence où on est le moins bon. Et savoir quelle est cette compétence et savoir la travailler très précisément, ça peut être simplement parce qu'on ne maîtrisait pas assez ses connaissances, ça peut être aussi parce que l'argumentation n'était pas assez claire, que le langage n'était pas assez précis. Donc il y a différentes techniques pour gérer une note qui a été mauvaise. Et ça, c'est le professeur qui, en donnant un retour détaillé, peut aider l'étudiant à progresser.
Bon, une école qui a un coût.
Oui.
Par an, elle est à combien ?
Elle est à 18 500 euros par an.
C'est très important. Quels sont les critères de sélection ? J'ai envie de dire au-delà de l'argent, mais ils peuvent toujours faire un prêt étudiant.
On a mis en place, parce que comme j'étais très engagé, et je le suis toujours en tant que co-président d'Article 1 dans le domaine de l'égalité des chances, on a mis en place un système d'appui, de soutien financier.
C'est le même prix que les grandes écoles, je tiens à préciser.
C'est près d'une grande école de commerce.
Exactement. Donc, parce qu'on est effectivement sur une pédagogie qui est vraiment haut de gamme et sur mesure. Donc, on a à la fois des bourses, et on a un système de prêt à taux zéro dont le remboursement est lié à votre revenu. C'est-à-dire que le remboursement de votre emprunt ne peut jamais excéder 25% de votre revenu, ce qui fait que vous n'êtes jamais étranglé par le coût de
l'école. Voilà. Comment on recrute Forward College ? Comment vous allez choisir ? Vous choisissez vos étudiants. Là, vous êtes en train de recruter la quatrième promotion. Quels sont les critères pour entrer chez vous ?
Alors, il faut être bon élève, Hein, je dirais, voilà, on se retrouve bien là-dessus avec Stéphane Braconnier, puisqu'on est effectivement en partenariat
assez,
avec des universités.
Ouais, c'est très haut de gamme. Hein.
Voilà, la London School of Economics, quand on doit suivre les programmes de la London School of Economics, c'est quand même très, très difficile. On ne veut pas exposer des étudiants qui n'en auraient pas la capacité à une situation d'échec. Mm-hmm. Mais pour nous, l'engagement précédent, c'est-à-dire effectivement avoir participé à une vie associative, avoir écrit, il y a toute une
ce que pratiquer un instrument, Stéphane d'un sport à haut niveau, etc. Assas.
Exactement. Ça vaut plus que quelques centièmes de points dans notre approche, puisqu'effectivement ça témoigne d'une capacité à s'engager, à le faire avec d'autres personnes, et un esprit d'entrepreneuriat, il y a un esprit pratique. Et donc ça fait partie de ces intelligences que nous on souhaite cultiver. Donc ça, c'est des signes avant-coureurs d'un vrai potentiel.
Aujourd'hui, vous avez une promotion d'une centaine d'étudiants. L'idée, c'est de progresser petit à petit, de croître.
Oui, tout à fait.
Ça fait partie de vos besoins.
Ça fait partie des besoins. Nous, on a surtout besoin d'être connus. Et donc, merci de cette invitation. Parce qu'effectivement, même quand on a un programme qui est de très bonne qualité, en fait, on voit bien que les grandes institutions sont des institutions qui sont séculaires, voire multiséculaires, qui existent depuis fort longtemps. Quand on est nouveau, il y a un vrai défi qui est de se faire connaître par des parents qui n'ont jamais entendu.
Qui ne connaissent personne. Et moi, ce que j'aime bien, c'est une année, un endroit. Donc, on démarre par Londres.
On démarre par Lisbonne.
Par Lisbonne, deuxième
puis
année.
Paris. Et enfin Berlin.
C'est uniquement post-bac ?
Oui, c'est uniquement post-bac.
Europe 1, la France bouge.
Elisabeth Assayas.
Bien sûr qu'elle bouge cette France, vous êtes bien sûr Europe 1, hein. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h et ce soir gros plan sur les lycéens et surtout sur nos futurs étudiants. Et oui, vous savez que ce soir, nous sommes à quelques heures, hein, n'est-ce pas Clara Léger, pour confirmer ses vœux. Et finaliser donc son dossier dans le processus de Parcoursup.
Oui, c'est ça. Hein, et après, à partir du 30 mai, donc les réponses de la part des organismes de formation, il y aura une phase d'admission complémentaire pour ceux qui n'ont pas reçu de réponse positive entre le 11 juin et le 12 septembre, à partir du 8 juillet, le bac, les résultats et les inscriptions définitives.
Et ce sera parti, alors vous pourrez peut-être aller à l'université Paris-Panthéon-Assas, on en parle ce soir avec Stéphane Braconnier, ou encore avec au Forward College, Boris Valbaum, là vous êtes en plein recrutement de la quatrième promo, ça y est, vous avez une vue d'ensemble un petit peu pour la rentrée de septembre, ou c'est vraiment en cours, c'est le
en
démarrage?
En France, assez bien, mais il y a des pays qui font leur orientation beaucoup plus tard, notamment en Allemagne, jusqu'en juillet-août.
Ça vous inspire quoi, Gilles? Vous êtes le coach de ce soir, vous êtes un entrepreneur, vous êtes le président de la certification Origine France Garantie. Ça vous évoque quoi toutes ces formations? Vous saviez ce que vous vouliez faire quand vous étiez jeune?
Alors moi j'ai toujours voulu être entrepreneur, mais les aléas de la vie ont fait que je suis rentré un peu vite dans la vie active. Mais donc je suis un autodidacte, donc je suis très impressionné par tous ces sujets et très intéressé surtout. Et je trouve ça absolument formidable le Forward College parce que je trouve qu'il y a un vrai sujet. Je trouve qu'il y a une vraie vision, quoi. C'est très visionnaire. On parle beaucoup en ce moment nous dans le milieu entrepreneurial de la quête de sens. Mmh. Et je trouve que là du coup on retrouve une façon différente de pouvoir faire de grandes études. Et je trouve ça très intéressant la pédagogie que vous mettez en place.
Moi je dis dans sa globalité par rapport à l'étudiant, hein, c'est un petit peu ça.
C'est exactement ça. Mmh. C'est comme ça que
Gilles.
Enfin je l'ai ressenti en tout cas. Et donc cette pédagogie un peu différente va permettre d'attirer des talents peut-être qui ne se seraient pas épanouis
ailleurs,
dans un cursus traditionnel. Donc je trouve ça plutôt intéressant. Après, la difficulté de tout ça, c'est qu'il va falloir aussi j'imagine convaincre des parents qui peut-être ont envie de quelque chose de plus traditionnel,
de plus classique
de plus classique. Et donc je dirais que là il va y avoir beaucoup de pédagogie là pour le coup à faire, parce que c'est vrai que les parents ont toujours envie de l'innovation fait toujours un peu peur.
Vous faites connaître comment, Boris Valbaum? Vous allez dans les lycées pour...
Oui, c'est intéressant parce qu'on a beaucoup de candidatures d'étudiants français et les étudiants français sont ceux qui confirment le moins quand ils sont admis.
C'est intéressant.
Alors que les Allemands confirment beaucoup, les pays du Sud traditionnellement confirmaient moins parce que le poids des familles est plus important, comme le disait Gilles. Et l'Italie et l'Espagne maintenant se sont allumés l'an dernier, donc ils sont remontés au niveau de ce qu'ils pèsent dans la démographie européenne. Et la France reste toujours derrière, donc on espère grâce à la France bouge.
On espère aussi. Quelle est la proportion des étudiants en termes de nationalité?
À peu près la démographie européenne.
D'accord, à peu près la démographie européenne. Vous voulez ajouter, Stéphane Braconnier, président de l'Université Paris Paris, Panthéon Assas, ce soir sur Europe 1.
La question qui est posée est une question, centrale aujourd'hui dans notre enseignement supérieur. C'est la question de la régulation des différentes formes d'opérateurs, des différents opérateurs qui interviennent dans le champ de l'enseignement supérieur et de la recherche. Tant que nous connaissions les universités, on les connaît, on sait ce que c'est, elles sont agréées par l'État, les diplômes sont des diplômes nationaux, les écoles de commerce, les écoles d'ingénieurs s'auto-régulaient à travers toute une série de labels, de certifications, la conférence des grandes écoles, etc. etc. Et puis, sont apparues ces dernières années dans le champ de l'enseignement supérieur des écoles de ce type-là. Là, une école de très haut niveau, comme le Forward College. Il y en a toute une série.
Vous proposez 6 bachelors en 3 ans, c'est ça?
Voilà.
Et pas à la fois.
Non, bien sûr.
Je ne sais pas comment est organisé le Forward College, mais il y a aussi des grands groupes de l'enseignement supérieur qui sont propriétaires de plusieurs écoles. Et cela, l'enjeu aujourd'hui, il est de savoir comment informer au mieux les lycéens, leurs parents, savoir à quoi ils s'engagent et ce qu'ils achètent, entre guillemets, lorsqu'ils s'inscrivent chez un opérateur, quel qu'il soit. Et l'enjeu de la régulation de l'enseignement supérieur et de la recherche, aujourd'hui, il est central, à tel point que le ministère de l'enseignement supérieur est en train de réfléchir à un label qualité pour les formations
un
privées,
label qualité,
ce qu'on appelle l'enseignement supérieur privé.
Un label qualité pour les formations privées, Boris Valbaume.
Oui, c'est très important, parce qu'effectivement, nous, on fait des investissements considérables pour avoir des profs permanents qui viennent des plus grandes universités européennes. On a de Sciences Po, de l'Université de Paris, d'universités britanniques ou allemandes. Et effectivement, on est considéré comme privé au même titre que toutes ces écoles récentes, parfois un peu plus opportuniste, mais ce qui fait aussi la vitalité du tissu, comme vous le disiez, de l'enseignement supérieur. Et je crois que ce qui est très important, c'est de savoir, en fait, quelle est l'inspiration, comme le disait Gilles au départ. Est-ce qu'il y a vraiment une envie de faire quelque chose de différent? D'où ça vient, ce projet éducatif? Ah ben moi, oui.
Complètement.
Et d'ailleurs, j'ai découvert ces différentes formes d'intelligence en étant, parce que moi, je viens d'un système très hiérarchique avec l'ENA. Vous êtes classé à l'entrée, vous êtes classé à la sortie. Ouais. Puis vous vous rendez compte qu'en fait, ces classements, à la fin, après 10 ans, ça marche plus. Et heureusement que ça ne marche plus, je dirais. C'est-à-dire que c'est plus le numéro, votre classement ou votre performance à l'école, comme d'ailleurs Gilles le démontre par sa carrière, votre succès. Il y a d'autres formes d'intelligence
L'intelligence émotionnelle, l'intelligence cognitive, l'intelligence sociale, l'intelligence pratique. Tout ça, vous le mettez, vous les réunissez au sein du Forward College.
Exactement. Savoir qui finance aussi, comme le disait Stéphane, c'est très important, puisque nous, on est financé que par les individuels. Les investisseurs français.
Xavier Niel est rentré au capital.
Xavier Niel, tout à fait, entre autres.
Entre autres, au capital de Forward College. La France bouge, on déniche des initiatives qui font avancer l'éducation, les apprentissages, et on va poursuivre avec un jeu pour apprendre et réviser.
Europe 1.
Le talent de la France bouge.
Vous êtes l'autre talent ce soir, Yann Caron. Vous avez cofondé Powers. Powers était en plein Covid en 2020. Vous aussi, il y a eu tellement de belles idées en 2020. Vous avez travaillé, on va revenir un peu sur votre parcours dans les télécoms chez SFR. Vous avez eu une grande partie de votre première carrière. On va dire ça comme ça. Et puis, vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat avec Powers. Pourquoi vous avez voulu lancer Powers?
C'est le pitch?
Non, pas encore, d'abord, je veux vous le dire.
Parce que j'étais hyper frustré, en fait, de voir les enfants autour de moi passer des heures devant un jeu vidéo. Et puis, quand je leur donnais quelque chose d'un peu éducatif, pour le coup, me rendre la tablette au bout de 5 minutes, ce qui n'est jamais bon signe quand un enfant rend l'écran. Et donc, c'est vraiment l'idée de Power, c'est si on faisait un vrai jeu vidéo, attractif.
Mix d'un jeu vidéo attractif et on peut apprendre
plus des choses. Plus qu'un mix, c'est d'abord un vrai jeu vidéo. C'est super important. C'est-à-dire que c'est d'abord quelque chose que l'enfant va réclamer quand il va avoir le choix entre... Désolé de citer des marques, je vais en citer plusieurs, mais Brawl Stars, Fortnite, etc. et Powers, on veut qu'ils choisissent Powers.
Alors vous allez nous dire ce qu'est Powers, vous aussi vous avez une minute, on vous écoute, c'est parti.
Powers, donc c'est un vrai jeu vidéo, j'insiste là-dessus, avec un monde, des personnages, des caractères, des aventures, pour les enfants à partir de 6-7 ans, c'est-à-dire quand il sait lire. Et puis au gré de ses aventures et en jouant à ce jeu vidéo, l'enfant va apprendre plein de choses différentes. Il y a des matières académiques, on va retrouver des maths, de l'histoire, de la géo, de l'orthographe. Et puis des matières beaucoup plus parascolaires, on va retrouver du yoga, de l'astronomie, de la cuisine, de la musique, de la programmation, des langues étrangères. Voilà, il y a une vingtaine de domaines dans Powers. Après, Powers s'adapte à tous les enfants, il y a une intelligence artificielle qui permet d'adapter le niveau au potentiel de chaque enfant. C'est-à-dire que vous avez 6 ans, vous avez 8 ans, ou même vous avez 47 ans, parce qu'il y a plein d'adultes qui jouent, on a 20% de joueurs qui sont des adultes, bah, l'intelligence artificielle fait en sorte que vous soyez toujours dans une zone où vous avez suffisamment de difficultés pour vous amuser, et en même temps, vous avez suffisamment de challenge pour continuer à progresser. C'est 250 000 enfants aujourd'hui, ça fait à peu près 10 000 classes quand même qui jouent à Powers juste en France. On s'est lancé il y a un peu moins de 3 ans. Et on a la chance d'être soutenu depuis le premier jour par Hachette et Bayard, avec qui on construit les contenus pédagogiques.
Une belle pépite française, ça s'appelle Powers. Gilles Attaf, le regard que vous portez sur cette pépite là, qui concerne davantage l'apprentissage chez les enfants hein, à partir de 6 ans. Mais on le sait, hein, ça démarre très très tôt.
C'est ça.
Gilles.
Bah, je trouve que c'est absolument incontournable. C'est formidable d'avoir eu cette idée qui va, je l'espère en tout cas, faire en sorte qu'on passe moins de temps sur les, que les enfants passent moins de temps sur les jeux vidéo, mais plus à l'apprentissage et à lier les deux. Je trouve ça absolument extraordinaire et surtout en ayant pu intégrer l'intelligence artificielle pour personnaliser l'expérience de l'apprentissage, je trouve ça absolument remarquable. Bravo.
Le principal défi ce soir, enfin en ce moment, Yann Caron, c'est de vous lancer aux États-Unis.
Alors c'est ça, là,
ça, c'est
on
ce
a,
qui est le plus important pour
on
vous.
On a été chercher, conquérir 250 000 enfants, principalement par le bouche à oreille en France. Jusqu'à maintenant, on construisait le produit, donc on a pris notre temps. Maintenant que le produit est prêt, c'est un produit français, voilà, on va aller s'exporter aux États-Unis dans les toutes prochaines semaines. On revient là de 15 jours en Californie. Et donc on veut conquérir le marché américain, qui est le marché où il y a le plus de potentiel pour nous, avant d'aller dans le monde entier.
Gilles ?
Oui, non, mais là, de toute façon, je pense que le marché est vaste, il est large et clairement sur les États-Unis, je pense que c'est il y a un vrai levier de croissance pour vous. Puis alors là, pour le coup, moi, je pense qu'il y a des, on sent qu'il y a des fondations solides derrière vous, que ça a été, enfin, 250 000 utilisateurs aujourd'hui, hein, donc ouais. C'est quand même assez exceptionnel parce que pour être aussi populaire assez rapidement, il faut quand même qu'il y ait une traction et on sent que là, il y a vraiment de la traction. Et puis bon, effectivement, les collaborations avec les éditeurs, c'est assez malin, je trouve ça plutôt pertinent et ça va vous permettre d'aller beaucoup plus vite. Donc
vous validez à 100%.
C'est le bon chemin.
Autour de la table, Boris Valbaume, quel regard portez-vous sur... Parce que ça démarre hein, tout jeune, hein, les apprentissages, les études.
Moi, je regrette que Powers n'ait pas existé il y a quelques années parce que mon fils est sacrément dédié aux jeux vidéo, donc il aurait bien eu besoin de Powers. Non, c'est formidable, vraiment. Ouais. Bravo, Yann.
Ouais. Et vous, Stéphane Braconnier, bah, vous êtes le président de l'Université de Paris Panthéon-Assas.
Ça m'intéresse énormément parce que dans tout établissement d'enseignement supérieur et dans notre université en particulier, nous sommes en réflexion presque permanente sur le meilleur moyen, la meilleure technique pour diffuser le savoir, les meilleures techniques d'apprentissage. Évidemment, nous avons la discussion en permanence sur le livre écrit versus tout ce qui est numérisé, dématérialisé, l'intelligence artificielle qui dans les disciplines qui sont les nôtres aujourd'hui joue un rôle considérable. On ne peut plus demander aujourd'hui la même chose à un étudiant. Demander aujourd'hui à un étudiant de préparer une présentation sur un sujet donné, ça ne présente pas vraiment d'intérêt.
On lui demande quoi alors
académique. Parce que on sait très bien qu'il va avoir recours à l'intelligence artificielle et que finalement il va nous servir un produit assez standardisé.
Donc bon, il prendra
la
parole.
Il faut demander des choses. Il faut demander. On a un niveau d'exigence, mais on a aujourd'hui un niveau d'exigence qui monte considérablement parce que on demande plus à nos étudiants de construire, de réfléchir, de raisonner. Et donc, c'est une révision complète de notre manière d'enseigner.
Et c'est le cas
donc,
grâce à vous.
Ces outils-là, pour nous, sont un vrai signal sur ce que nous pourrions envisager de faire dans les années qui viennent.
Donc, Yann Caron, il y a l'histoire, les maths, la géographie, des sujets de programmation, de musique, de poésie aussi. Ça m'a frappé, la poésie.
Exactement. Pour ceux qui connaissent Guitar Hero, vous devez jouer des morceaux de guitare. Là, on a fait ça avec de la poésie. Donc, vous avez une mule qui va de plus en plus vite quand vous récitez une poésie. Ce qui est impressionnant, c'est qu'on... Comme c'est une intelligence artificielle, on collecte toutes les données anonymement, mais on sait tout ce qui se passe. Et donc, on peut mesurer les progrès. À l'échelle de 250 000 joueurs, ça fait des dizaines de millions de points de données. Et donc, on sait qu'aujourd'hui, les enfants progressent. On le mesure. Ils sont toujours à 80% de bonnes réponses. Que le niveau soit au démarrage, c'est-à-dire assez simple, ou que le niveau soit après 800 questions, c'est-à-dire beaucoup plus compliqué. On reste à 80%. Et c'est quelque chose qu'on mesure qui est super important pour nous. Moi, j'ai un défi, je voulais le dire, mais j'ai hâte que Powers soit dans les critères de surpondération de la note dans Parcoursup. Un jour, je suis sûr qu'on sélectionnera les enfants quand on joue à Powers.
Mais oui, pourquoi pas. Vous les changez chaque année ? Vous les modifiez chaque année ?
Les paramètres, sont installés. C'est-à-dire qu'on les réévalue en tout cas chaque année. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des paramètres dont on considère qu'ils ont moins d'importance, par exemple. Donc on va leur accorder une importance moindre dans le...
Lesquelles,
dans
par exemple?
Bon, ça peut être une discipline, par exemple. On va se dire, peut-être qu'il vaut mieux valoriser, par exemple, les sciences économiques et sociales.
Si on veut faire du droit.
Et un peu moins, si on veut faire du droit, bien sûr, ça dépend des disciplines. Et un peu moins les mathématiques ou un peu moins les sciences physiques.
Ça dépend, de ce qu'on a envie, de ce qu'on envisage.
Effectivement, puisque la commission d'examen des vœux Parcoursup par discipline qui est créée dans chaque établissement se réunit en amont du processus pour valider les critères et évidemment en aval pour examiner les dossiers.
Je vais vous demander, Stéphane Braconnier, vous êtes le président de l'Université Paris-Panthéon-Assas, petite question d'actualité. Le contexte au Proche-Orient, on l'a vu, a débordé dans les universités françaises, à Sciences Po, même pas que françaises, hein, Harvard, etc. La guerre qui a été déclenchée par le Hamas à Israël le 7 octobre. Comment ça se passe pour Paris-Assas, Paris-Panthéon-Assas? Comment vous gérez ça en tant que président d'université? C'est compliqué, on le voit.
Alors le contexte est très compliqué. En effet, je crois qu'il faut le gérer sans excès de naïveté, sans excès d'angélisme, mais sans catastrophisme non plus. Je crois qu'il faut surtout que les présidents d'université, en tout cas c'est mon cas, nous soyons extrêmement attentifs aux signaux faibles que nous pouvons avoir dans nos universités.
C'est-à-dire, vous n'attendez pas qu'il y ait une réunion un peu sauvage amphithéâtre.
Ça, justement,
vous êtes très attentif à ce qui ça se passe
aux signaux faibles. Et deuxièmement, fixer des règles claires, les expliquer et surtout les appliquer. Je crois que si on fait ça, on arrive à maintenir une situation stable et propice à des études sereines. C'est ce que nous avons fait.
D'ailleurs, deux jours après, vous avez été confronté, je crois, autour du 10 octobre.
Deux jours après, autour du 10 octobre, on a été confronté à des déclarations intempestives, inacceptables, enfin bon, peu importe, d'un de nos enseignants chercheurs qui a été immédiatement suspendu le temps que les choses se calment et qui fait l'objet aujourd'hui d'une procédure disciplinaire. Donc il ne faut pas, avoir la main qui tremble dans ces cas-là. Et je crois que les présidents d'université, dans leur très grande majorité, n'ont pas la main qui tremble. Nous sommes très attentifs évidemment à ce qui se passe, attentifs aux signaux faibles et extrêmement fermes sur un certain nombre de principes. C'est le cas à l'université Paris-Panthéon-Assas. Il ne faut pas laisser la place à la tentation que pourraient avoir certains qui sont minoritaires d'imposer une façon de penser ou d'empêcher la libre expression
des pensées académiques.
Ce n'est pas le cas.
Vous vous réunissez avec les autres présidents d'université, bah, vous en avez parlé?
Bien sûr, il y a France Université qui réunit l'ensemble des universités françaises, c'est l'ancienne conférence des présidents d'université. Donc là, nous avons des échanges sur ce terrain-là. Et effectivement, je crois que nous sommes à peu près tous sur la même ligne. C'est-à-dire une ligne de fermeté, une ligne de défense de la liberté d'expression et de la liberté académique, avec des contextes, évidemment, qui sont différents selon les universités. Mais je crois qu'en étant attentif, clair sur les règles et ferme sur l'application de ces règles, je crois qu'on arrive à une situation qui est relativement sereine.
Donc là, pour l'instant, c'est serein au moment où on parle.
Au moment où on parle, c'est serein, en effet. Boris, tant mieux, je m'en réjouis.
Boris Valbaum, du côté de Forward College.
Nous, ce qui rend les choses encore plus compliquées, c'est qu'on a différentes nationalités.
Oui, c'est ça.
Et donc, effectivement, les Allemands vont avoir une appréhension du sujet différente des Français, parce que leur rapport à cette zone n'est pas la même, bien sûr.
Donc, vous avez mis des choses en place.
Donc, nous, dès le début, en fait, ça fait partie de notre formation. C'est-à-dire qu'avoir des discussions difficiles, c'est un des éléments fondamentaux de notre programme.
Ah ouais, donc vous y allez.
Exactement, oui. Mais on prévient dès le début, c'est-à-dire qu'on les arme à avoir ces discussions fondamentales, parce qu'on sait qu'à un moment,
ça va arriver. Mais alors comment vous les modérez? Comment vous faites en sorte que ça ne déborde pas?
Ben justement, nous, on est là pour les former au moment où c'est, si je puis dire, froid, pour que quand ça devienne chaud, ils aient les capacités de le faire.
Mais là, ça l'est en ce moment.
Oui, tout à fait.
Et donc,
ce qu'on a organisé, c'est que un, on les a formés, et deux, ils ont eu effectivement, pour ceux qui étaient intéressés, cette discussion avec des règles du jeu qui étaient très claires, et ils ont eu après, parce que c'était une occasion d'apprentissage, un retour sur la qualité de leur contribution à la conversation, la qualité de leur écoute.
Donc ce que vous nous expliquez ce soir, Boris Valbaum, c'est que vous, ça fait l'objet carrément d'un cours.
Exactement.
Au Proche-Orient.
Non, pas le conflit au Proche-Orient mais ça peut être sur des sujets de racisme, ça peut être des sujets de genre, ça peut être, vous voyez, tous les sujets qui gravitent autour. Dans l'université, et puis ça peut être des sujets interpersonnels aussi, c'est pas forcément des sujets politiques. Mais toujours quand vous avez une conversation difficile, c'est les mêmes techniques qui doivent être utilisées, que ce soit le Proche-Orient ou une rupture entre les amis.
Presque l'objet d'un cours avec les. Quand vous dites les règles du jeu, il y avait des règles?
Ah oui, tout à fait.
Par exemple?
C'est-à-dire, la communication non violente, ça fait partie de ce que l'on applique, c'est-à-dire qu'effectivement, on dit quels sont les faits, après on dit quel effet ça a sur moi. avant de juger. C'est-à-dire qu'on suspend le jugement. Tout le problème dans la discussion difficile, c'est le jugement intempestif, c'est l'insulte.
Ou quand l'affect est trop important.
Exactement. Donc c'est la prise de distance. Donc on est dans l'intelligence émotionnelle, enfin l'intersection entre l'intelligence émotionnelle et l'intelligence sociale.
On avance et ça fait du bien dans cette France bouge. On avance dans les universités, on avance auprès avec nos étudiants. On va aller jouer avec vous, hein, Yann Caron, avec Powers. Merci d'être venu ce soir dans la France bouge. Bonne chance. Donnez-nous des nouvelles parce qu'on suit attentivement les startups qui viennent autour de la table de la France bouge.
Avec plaisir, peut-être sur une chaîne américaine.
Mais pourquoi pas, c'est ce que l'on vous souhaite. Boris Valbaume, merci, fondateur de Forward College. Bonne chance pour le recrutement de votre 4e promo. Ça aussi, ça fait du bien. Vous faites avancer la France. Et merci à vous,
Elisabeth.
Stéphane Braconnier, président de l'université Paris-Panthéon-Assas. Vous allez tout débroussailler là, dans les prochains jours, parce que je rappelle que c'est jusqu'à ce soir hein, pour confirmer ses vœux.
Rassurez-vous, l'université est armée pour aborder la vague des candidatures sur Parcoursup dans les meilleures conditions possibles.
Plus 12%, on l'a bien retenu ce soir sur Europe 1. Clara Léger, on vous retrouve demain pour une prochaine France Bouge. Et Gilles Attaf, merci.
Merci à vous.
D'être venu ce soir sur Europe 1.
Europe 1.
La France bouge. 20h, 21h. Elisabeth Assayag.